en paix depuis 67.
Attendez-vous à plus. 98, 5. Montréal. Drainville PM. Le Monde. Loïc Tassé.
I believe that this is a tremendous setback for North Korea and indeed a setback for the world. And a lot of things can happen, including the fact that perhaps it's possible that the existing summit could take place or a summit at some later date. Nobody should be anxious. We have to get it right.
Bon, alors c'était Donald Trump, évidemment, qui dit que le sommet avec Kim Jong-un, bon, est annulé, mais, qu'il pourrait quand même avoir lieu at some later date, hein, un peu plus tard, à une date indéterminée. Pour en discuter de cela, Loïc Tassé, on va prendre quelques minutes d'ailleurs, oui. on le dit tout de suite, là.
Bonjour,
on
Bernard.
Met la table, salut. On va essayer d'évaluer ce qui s'est passé, parce que moi, je vais te dire, depuis le début, je suis un petit peu sceptique de la façon dont les discussions sont menées. Je trouvais ça quasiment trop beau pour le croire, mais j'espérais. J'avais espoir quand même, puis je pense que je ne suis pas le seul. On avait tous un peu espoir que, malgré le fait qu'on a deux leaders on est en présence de deux leaders qui sont un peu erratiques par moments, qui sont certainement imprévisibles, on espérait que quelque chose de positif, puis peut-être même un accord sur la dénucléarisation de la Corée, de la péninsule coréenne survienne. Je vivais de cet espoir-là, moi. Je suis déçu.
Moi, je suis pas sûr qu'un accord aurait eu lieu sur une dénucléarisation complète. Enfin, ça aurait peut-être pris une dizaine d'années, une vingtaine d'années. Mais ce que je trouve, et on s'ennuie jamais avec Trump, soit dit en passant,
c'est sûr.
Ce que je trouve étrange là-dedans, c'est les raisons que Trump apporte pour dire qu'il met fin, qu'il ne va pas aller à Singapour. Et quand on lit sa lettre...
Que tu vois sous les yeux, d'ailleurs.
Que j'ai sous les yeux, oui. Qui est écrite sur un ton généralement assez cordial. Hein. Mais ce qu'il dit...
Il s'adresse à Kim Jong-un dans la lettre.
Exactement. C'est votre excellence, Kim Jong-un, c'est ça les premiers... c'est à lui que ça s'adresse. Et en fait, ce qu'il dit, c'est qu'il y a une colère énorme et une hostilité ouverte que vous avez montrée. Et donc ça fait en sorte que, selon moi, les conditions ne sont pas réunies pour avoir une rencontre.
C'est ce que Trump dit. Là. Il dit Trump la raison pour laquelle je décide d'annuler la rencontre, c'est que vous avez, M. Kim Jong-un, fait preuve ou manifesté.
Sadly, based on the tremendous anger and open hostility displayed and your most recent statement, I feel it is inappropriate at this time to have, etc.
Alors, de quoi, quand il parle de l'hostilité ouverte que Kim Jong-un a manifestée, il parle de quoi?
C'est pas Kim Jong-un qui l'a manifesté d'abord, c'est des gens qui sont en dessous de lui, bon, probablement avec son approbation, mais c'est au niveau des sous-ministres. Tu as par exemple Madame Choi Soon-hui qui a déclaré, qui est vice-ministre aux affaires internationales, qui a déclaré que Mike Pence, le vice-président américain, était un idiot. Ce qui, évidemment, n'est pas très diplomate et ne préfigure pas de bonnes négociations, en effet. Mais il faut dire que Pence a réitéré l'idiotie, et j'emploie le mot que John Bolton avait, lui, le nouveau conseiller à la sécurité de Trump, avait lui-même colporté depuis quelques jours. C'est-à-dire que le régime nord-coréen pourrait finir comme la Libye. Or, ça a fini très mal en Libye, on s'en souviendra.
Ben oui.
Kadhafi a été assassiné, bon, pas parce qu'il n'avait plus la bombe atomique, c'est pas exactement ça qui s'est passé, ce serait trop long de rentrer là-dessus, mais c'était pas la chose à dire. Et donc, lui dit non, vous nous avez insultés, vous avez un ton, n'est-ce pas, qui n'est pas ouvert, etc. Donc, il n'y a pas vraiment de dialogue qui est possible. Il laisse quand même la porte ouverte, comme on l'a entendu dans l'extrait. Il laisse la porte ouverte à une rencontre plus tard. Il dit qu'il avait hâte de rencontrer Trump et le remercie pour la libération des prisonniers américains. Mais il dit aussi qu'il prie Dieu qu'il n'aura jamais utilisé les armes nucléaires que les États-Unis possèdent. Ce qui est ça la partie la moins jolie de la lettre. Et ça va être utilisé par la propagande nord-coréenne. Alors, on se dit, mais pourquoi est-ce qu'il fait ça? C'est pas vrai qu'on décide de stopper des négociations aussi importantes internationalement simplement parce qu'il y a eu des insultes qui ont été colportées à un niveau subalterne, quand même. Donc, on se dit, qu'est-ce qui s'est passé? Et j'ai écouté Mike Pompeo, qui était devant le comité sénatorial.
Le nouveau secrétaire d'État, l'ancien directeur de la CIA.
Il était là ce matin, devant le comité sénatorial des affaires étrangères. Et il a dit quelque chose d'assez intéressant. Il a dit, écoutez, on avait convenu, j'avais convenu avec Kim Jong-un, de mettre en place des équipes préparatoires. C'est normal, en vue de ce sommet. Or, on n'a pas de nouvelles de la Corée du Nord. Ils ont, semble-t-il, même pas mis en place ces équipes-là. On est sans contact entre les deux équipes. Donc, on a l'impression, nous, qu'ils ne veulent pas vraiment que ce sommet ait lieu. Alors là, on rentre dans quelque chose de plus intéressant.
Ça, c'est ton analyse ou il y a quelqu'un aux États-Unis qui dit « on a l'impression qu'ils ne veulent
analyse,
pas ».
Mon analyse, c'est Mike Pompeo qui dit ça, qui dit à peu près dans les termes que je viens de te dire là. Écoutez, ça bloque et on n'a pas vraiment l'impression qu'ils sont si enthousiasmés que ça à avoir ce sommet.
En tout cas, ils n'ont pas l'air...
Ils n'ont pas l'air disposés
à le préparer correctement.
D'après ce qu'ils ont dit, les équipes ne sont pas en contact et c'est de la faute des Nord-Coréens. Ouais. Alors là, tu dis, bon, c'est intéressant ce qu'il vient de dire là. Et il ne veut pas spéculer plus là-dessus, mais il dit quand même qu'un accord entraînerait des changements significatifs à long terme en Corée du Nord. Et tu te souviendras, on en parlait il y a quelques jours, on dirait que le leadership est divisé quand on avait parlé de ça il y a quelques semaines. Et tu étais d'accord là-dessus. On avait vraiment l'impression qu'en Corée du Nord, il y avait des problèmes parce que ça implique des changements de régime importants, même si les États-Unis disent qu'ils n'exigent pas un changement de régime. Mais c'est sûr que ça a des implications énormes. Donc, peut-être que la Corée du Nord n'est pas du tout prête en ce moment encore à aller en négociation avec les États-Unis.
Parce qu'à l'intérieur,
il n'y a pas de consensus.
Il n'y a pas de consensus entre les différentes factions.
Exact. Et on ne sait pas non plus quel est le leadership réel de Kim Jong-un, de la famille de Kim Jong-un, etc., si elle est divisée ou non. Parce que c'est très secret, tout ça.
Donc, il y en a fait assassiner quand même quelques-uns.
Une bonne centaine, semble-t-il.
Quand il est arrivé au pouvoir, dans les années qui ont suivi.
Les gens sont tranquilles ensuite.
Oui, mais c'est ça l'idée. L'idée d'une purge, c'est de consolider ton leadership.
Oui, normalement, tu ne fais pas assassiner tes ennemis, Romain.
Voilà.
Tu les mets... Mais pour revenir à ça, donc, du côté nord-coréen, on dirait qu'ils sont pas si intéressés à le faire pour le moment. Puis du côté des États-Unis, mais tu sais, il y a les élections de mi-mandat qui arrivent. Puis il faut que Donald Trump sorte de ces négociations-là sans être attaqué par les démocrates. Or, j'ai l'impression qu'il se demandait de plus en plus ce qui arriverait si jamais ça se passait mal aux négociations, si jamais les résultats étaient inférieurs aux demandes, qu'est-ce qui allait arriver, comment la Chine allait réagir, comment tout le monde allait réagir. Et j'ai l'impression qu'aux États-Unis même, justement à cause de la situation actuelle, parce que tout est orienté en ce moment par les élections de mi-mandat qui s'en viennent à l'automne, ben Trump n'était pas si près que ça non plus d'aller négocier.
Ben là, fait qu'on s'est fait... Enfin, si ton hypothèse se vérifie, si elle se confirme, on se serait fait monter un bateau.
Ben, disons qu'il y avait
Disons
qu'il y avait une intention de chaque côté, bonne intention.
Les implications concrètes et réelles de part et d'autre, on s'est dit, mais...
C'est ça. Et c'est d'ailleurs dans la lettre de Trump quand il dit, écoutez, je sens que c'est inapproprié à ce moment-ci. Ça représente évidemment un recul pour le monde, mais c'est peut-être mieux pour les deux parties. Il dit « for the good of both parties » dans sa lettre. Ouais. Donc, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui se trame derrière tout ça.
Bon, ça, j'allais te dire. Le fait que Pompeo est quand même allé là-bas, nouveau secrétaire d'État, ex-directeur de la CIA, on peut penser qu'ils ont établi une relation, en tout cas, une relation de travail, on va dire, Ça se pourrait que même si le sommet... J'essaie de regarder ça positivement.
Le dialogue
n'est
pas rompu.
Ça se peut que malgré qu'il n'y ait pas de sommet, que le dialogue, lui, se poursuive, dans les coulisses, d'une façon peut-être même informelle.
C'est peut-être mieux. C'est gros.
C'est gros.
Il n'y avait pas beaucoup de temps. Remarque bien aussi qu'il y a d'autres problèmes avec ça. C'est que les Sud-Coréens ne semblent pas avoir été prévenus par Trump, ce qui n'est pas chic.
Ça, j'allais te dire, les Sud-Coréens, là-dedans, on les entend pas. Eux autres sont pas mal importants.
Ils sont surpris. Écoute, c'est arrivé ce matin à leur heure. Donc, c'était le soir. Tu sais, les gens étaient partis, ils n'étaient pas au travail. Donc, ils dorment en ce moment. Demain matin, tu vas avoir des vraies réactions. Mais ils ne sont pas très contents de ce qui se passe. Les Japonais ne semblent pas avoir été avertis non plus. Donc, tout le monde a été un peu pris par surprise. Et on a l'impression que cette décision-là, finalement, a été prise par Trump un peu à la dernière minute. Je t'entendais en parler tout à l'heure.
Ouais.
Et ça semble être ça. On ne sait pas exactement vraiment pourquoi Trump a fait ça. Il a donné une partie peut-être des raisons dans cette lettre, ce qu'on a dit. Il y a peut-être d'autres raisons derrière tout ça. Pompeo nous a donné quelques indices derrière tout ça. Mais je pense que généralement, on a vraiment l'impression que les deux pays pour des raisons différentes, n'était pas prêt à négocier encore.
Voilà. Je pense que tu as bien résumé. Et on va juste espérer maintenant que le dialogue va se poursuivre. Puis qu'éventuellement, ils vont se dire, bon, voilà, là, on est prêt. Parce que dans les faits, ces sommets-là, quand ils fonctionnent, c'est parce que tu arrives au sommet, puis l'essentiel a déjà été négocié.
C'est ça. Normalement, c'est comme ça que ça se passe.
Sinon, c'est la recette pour un échec.
Absolument.
Tu ne peux pas délier des affaires aussi complexes sur 48 heures de discussion.
Tu n'as même pas de communiqué conjoint dans ce temps-là.
Alors, peut-être que c'était sage. J'espère juste que ce n'est pas remis à une date tellement lointaine.
J'espère qu'il n'y aura pas d'escalade.
Ouais.
Et puis, la Corée du Nord a quand même un réseau à travers le monde de contrebande. Mmh. On a appris ça récemment. Ils payent des gens pour faire de la contrebande de toutes sortes de produits. Alors, ça non plus, ça, c'est un problème. Donc, on espère que la situation va rester située au niveau où elle est en ce moment. On va continuer à parler, mais qu'il n'y aura pas d'inflation, ni d'un côté, ni de l'autre, d'inflation verbale.
Voilà, tout à fait. On va s'arrêter parce qu'au retour, on va parler de ce missile, enfin, qui a abattu l'avion de la Malaysia Airlines en 2014.
On sait qui l'a abattu.
On le dira dans un instant après la pause. Alors, de retour avec Loïc Tassé pour le reste de l'actualité internationale. D'abord, les conclusions donc de cette enquête au sujet donc de ce missile là, qui a abattu en 2014. On s'en rappelle, c'était au-dessus de l'Ukraine, non?
Oui, c'est un avion de la Malaysia Airlines et un Boeing 777 avec 298 personnes à bord. Il volait au-dessus de l'est de l'Ukraine. Eh bien, oui, ça a été tiré à partir de ce territoire et c'est un missile russe. C'est un missile de fabrication russe qui s'appelle le Kursk et c'est un missile qui a été tiré à partir d'un convoi dont tous les véhicules appartenaient aux forces armées russes.
Qui conclut ça? C'est cette
enquête internationale donc qui est dirigée par des Hollandais qui conclut ça. Donc c'est assez
c'est crédible.
C'est très très crédible.
Mais c'est l'hypothèse qui c'était la première hypothèse depuis le départ, on disait que c'était des Russes.
Oui, sauf que les Russes ont toujours dit qu'aucun système de fabrication russe n'a jamais traversé la frontière russo-ukrainienne, ce qui est faux. C'était des systèmes russes. La seule question qu'on se pose, c'est qui a exactement tiré? Est-ce que c'était des soldats russes ou est-ce que c'était des gens qui étaient formés par les Russes, des Ukrainiens russophones de l'Est de l'Ukraine qui avaient cet équipement-là et qui ont tiré? Ça, c'est ce qu'on ne sait pas. Mais c'est eux qui avaient cet équipement et c'était l'équipement russe qui est responsable de ça. Ça, c'est certain.
Okay,
et
donc les Russes ont
leur part de responsabilité, quoi qu'il arrive là-dedans.
Ça a été tiré de l'Est de l'Ukraine.
Oui.
Ça, c'est établi.
Oui.
Et ce qui est établi, c'est que c'était un missile de fabrication russe. Maintenant, qui a pesé sur le bouton?
Ça, on ne sait pas.
Ça, on ne sait pas. Et on ne saura jamais.
Ça
a pris 4 ans, en tout cas, pour établir le...
Je ne dirais pas qu'on ne saura jamais. On le saura peut-être un jour quand des archives seront ouvertes ou s'il se passe quelque chose. Mais c'est sûr que pour le moment, on ne sait pas exactement. Mais ça n'a plus tellement d'importance.
Ça n'a plus d'importance. Pour les gens qui avaient des parents à bord...
Est-ce que tu vas poursuivre la Russie avec ça? Oui, tu peux poursuivre la Russie avec ça. Elle est responsable. Mais je pense bien, moi. Elle est responsable. C'est eux qui ont fourni cet équipement. C'est eux qui ont donné cet équipement à ces gens-là. C'est leur équipement. Alors, à partir de ce moment-là, il y a
Je me rappelle maintenant des images. Un champ à perte de vue là, qui était jonché
de débris
et de restes humains. Là. Puis on voyait les gens qui marchaient dans les champs. Là.
Oui, il y avait même un passager, c'était frappant, qui était tombé assis dans son siège, encore attaché. C'était assez terrible.
Absolument. Parlons des Russes. Continuons, parlons des Russes. Macron et Poutine qui se rencontrent aujourd'hui. On se demande bien de quoi ils vont parler.
Moi, je sais de quoi ils vont parler. Ils ont beaucoup de sujets de conversation. Tu sais, ils se sont rencontrés à Versailles l'année dernière. Donc, cette année, ils se rencontrent en Russie au palais Constantin, à une vingtaine de kilomètres au sud de Moscou. Un palais avec des jardins magnifiques.
Et des micros un peu partout.
C'est la règle. C'est comme ça. Mais de toute façon, il y a une très forte possibilité de rapprochement franco-russe dans le cadre donc, de ce qui se passe avec Trump. Trump, avec sa politique en particulier contre l'Iran, pose problème. Et la Russie, elle, a d'excellentes relations avec l'Iran. Et donc, elle pourrait se porter garante d'un nouvel accord avec les pays européens. C'est très, très possible que ça se produise. C'est sûr qu'il y a d'autres problèmes qui aussi poussent.
Un nouvel accord, tu veux dire, sur le nucléaire?
Ah, oui, oui. Ben, c'est-à-dire la garantie de l'accord actuel.
Oui, qu'on perpétue. Qu'on garantit.
Donc,
ouais.
Sans les États-Unis. Ouais, peut-être avec quelques nouvelles garanties pour l'Iran et puis garanties pour l'Europe.
Il nous reste seulement une minute, mais je pense qu'objectivement, si on regarde l'intérêt stratégique des Russes et l'intérêt stratégique des Européens, ils ont vraiment tous les deux intérêt à ce que l'accord soit maintenu, l'accord sur
oui,
le nucléaire.
Il ne faut jamais oublier que les Européens, malgré tout ce qu'ils disent, les Russes, ce sont des Européens et ils ont des intérêts très communs avec les Européens.
Eh bien, souhaitons que ces intérêts communs prévalent. Merci beaucoup, Loïc Tassé. Après la pause, on va vous parler de la violence dans le sport, en particulier la violence qui touche nos enfants, violence sexuelle. On va parler des camionneurs également qui ont besoin d'aide, ceux notamment qui ils conduisaient, puis à un moment donné, quelqu'un s'est jeté sur le camion, suicide, ça laisse des séquelles après la pause.